France Inter.
Merci beaucoup. Le prochain flash, ce sera dans une heure à 15h sur France Inter.
Si Kiki ne fait pas partie de l'espèce canine racée, par contre, c'est un spécialiste de la racine carrée.
Actuellement, vous entretenez combien de puces ?
J'ai toujours entre 150 et 200 puces.
Racine carrée de 4.
C'est désagréable, hein ? Même dans mes beaux placards de ma cuisine, j'ai des qu'à faire.
Et pour finir, sachez qu'un mammouth l'a échappé belle en Sibérie.
Ravageurs, malfaisants, vermines, proliférants, puants, envahissants, rampants, on va parler dans cet épisode des nuisibles et on va mettre de gros guillemets. Quand l'homme s'est sédentarisé, il a commencé à se protéger des petites et grosses bêtes qui dévoraient les récoltes et attaquaient le cheptel. La notion de nuisible vient de loin, mais elle n'apparaît clairement qu'au 19e siècle et on lui opposait la notion d'utile. Il y a eu depuis beaucoup de discussions scientifiques et éthiques, de conflits entre protecteurs de la nature et groupes socio-professionnels. Le débat est loin d'être clos, car on continue à chasser des animaux, à les enfermer et à les tuer. Pourtant, on partage avec toutes ces espèces le même territoire, nous dira Rémi Luglia. Il est historien, spécialiste de la nature.
Les aventuriers sur France Inter.
Le loup est un animal des plus dangereux. Persuadez-vous, en écoutant la voix féroce du loup attaquant sa proie. Vous l'avez entendu, c'est très court, mais tout ce qu'il y a de plus dangereux. Le loup des prairies de l'Amérique du Nord, le coyote, est parent avec les chacals. Il a une expression différente. Il a fallu avoir une grande patience pour pouvoir enregistrer pendant la nuit les courts aboiements finissant avec un cri haut et aigu.
C'était Ludwig Kor en 1951 sur une émission consacrée au langage des animaux. A longtemps été un des animaux les plus détestés par les hommes. Rémi Luglia, bonjour.
Bonjour.
Vous vous intéressez beaucoup à ce sujet des nuisibles, entre guillemets. Le loup est un très bon exemple quand on parle des nuisibles.
Oui, c'est même, on pourrait dire, l'archétype du nuisible, c'est-à-dire l'espèce la plus emblématique, puisque aussi loin qu'on peut remonter, le loup, qui est un gros animal, hein, assez puissant, a pu poser des difficultés aux humains. Mais il ne faut pas oublier non plus que le loup a été pour nous l'ancêtre du chien domestique et que d'une certaine façon, les loups ont pu donner les meilleurs compagnons des humains.
Alors nuisible, c'est vraiment une notion qui est ancrée dans les mentalités. Ça renvoie à nuisance, ça renvoie à plein de choses désagréables.
Oui, le nuisible, si on doit le définir simplement, mais c'est un terme qui est souvent polysémique. Mais c'est un animal ou une espèce, ça peut être aussi des végétaux, qui gêne les humains. Et comme il gêne les humains, on va chercher à s'en débarrasser, voire à partir du 19e siècle, on va chercher à l'éradiquer, vraiment à le faire disparaître de la planète, dans une vision où l'homme est au centre, finalement, du monde, et que tout doit être ordonné autour de son utilité immédiate.
Alors, vous avez dit qu'on s'en occupe vraiment à partir du 19e siècle. Au Moyen-Âge, le mot nuisible n'était pas utilisé avec les animaux.
Oui, alors d'abord, le terme nuisible n'existe pas dans toutes les civilisations. Donc là, on va parler aujourd'hui essentiellement de la civilisation occidentale. Et c'est vrai qu'à toutes les époques, le terme nuisible ne prend pas le même sens. Vous le rappelez, au Moyen-Âge, ce terme-là ne concerne pas forcément les espèces auxquelles on pense. Le nuisible au Moyen-Âge a une connotation davantage religieuse. C'est l'espèce, ça peut être aussi les êtres humains qui vont venir percuter, on va dire, l'équilibre voulu par Dieu. Bon, donc ça peut être des incroyants, par exemple, qu'on va qualifier comme étant des êtres nuisibles. Il faut dire qu'au Moyen-Âge, on n'a pas les moyens techniques de se débarrasser d'espèces qui gênent. Et donc, à ce moment-là, on considère que c'est plutôt la volonté de Dieu qui s'exprime en envoyant contre les humains des espèces qui vont, par exemple, proliférer momentanément. On peut penser aux insectes, on peut penser aux rongeurs, et qui sont là, d'une certaine façon, pour punir les humains qui se seraient éloignés de Dieu. vieux.
Mais alors comment est-ce qu'on s'arrangeait avec les rats, les puces, les moustiques, les souris ?
Eh bien, on faisait avec. On faisait avec, ce qui n'était pas toujours d'ailleurs très agréable pour les humains, parce qu'on avait des moyens de défense assez limités. Mais on était habitué à vivre avec ce vivant qui était différent des humains et qui venait télescoper nos activités.
Est-ce qu'on peut parler des nuisibles, entre guillemets, toujours, en milieu marin ?
Oui, alors le nuisible marin est un peu particulier. Il connaît une évolution curieuse. Jusqu'au 18e, jusqu'au 19e siècle, en fait, le nuisible marin est très mal connu. Les mammifères marins, notamment, donc les baleines, les dauphins, les marsouins, sont des espèces qu'on imagine presque monstrueuses.
Maléfiques.
Maléfiques, ça vient du domaine des abysses. Et encore une fois, la mer et le sous-marin, le monde sous-marin, est très mal connu. Donc, on en fait des êtres mystérieux. C'est au 19e siècle qu'ils deviennent réellement, pour un certain nombre d'entre eux, nuisibles, puisqu'on les connaît mieux, et surtout, on va les accuser de dépeupler les mers.
Oui, c'était un fléau pour la pêche, les marsouins et les dauphins en particulier. On les accusait de manger les poissons que les pêcheurs ne pouvaient plus attraper.
C'est cela, on les accusait de dépeupler les mers, notamment en Méditerranée. Et en fait, ils ont servi à l'époque, comme souvent, d'ailleurs, de bouc émissaire, puisque les difficultés de la pêche, notamment méditerranéenne, sont plutôt des difficultés sociales et économiques, liées aussi à des modes de pêche qui déjà surexploitent les mers et les océans, qui vont les vider de leurs poissons, et plutôt que de remettre en cause le modèle économique qui existe, ben on préfère trouver un bouc émissaire, et rien de mieux qu'un prédateur, donc un dauphin et un marsouin, pour tenir ce rôle-là. Et à tel point qu'on va chercher à les éradiquer. On va chercher à les éradiquer des mers et des océans.
C'est vrai qu'il y avait des exorcismes de dauphins.
Oui, exorcisme de dauphins, on faisait appel jusqu'au 19e siècle à la religion, aux prêtres, pour demander à Dieu de faire cesser la nuisance d'un certain nombre d'êtres. Ça peut être des loups, par exemple, ça peut être aussi des insectes, des ravageurs, ça peut être aussi des aléas climatiques. Donc on voit bien qu'on avait une vision du monde qui était bien fécondée par les croyances religieuses.
Avec des primes qui étaient distribuées pour chaque bête battue.
Oui, alors ça c'est l'État qui, notamment pour le loup, va distribuer des primes pour chercher à éradiquer cette espèce, ce qui sera chose faite en France dans les années 1920.
Rémy Luglia, le nuisible est variable selon les lieux, selon les époques. Et en fait, est-ce que ce mot a une véritable signification du point de vue scientifique ?
Alors, je vais être assez catégorique pour une fois. Un historien est toujours dans la nuance, mais là, je vais être catégorique. Le terme nuisible n'a aucune pertinence scientifique. Au niveau biologique, une espèce dite nuisible ne signifie rien, puisque chaque espèce existe et a une place dans les écosystèmes, bon, comme l'humain d'ailleurs. Par contre, il est évident qu'il peut y avoir par moments des espèces ou des populations ou des individus qui vont se comporter différemment ou qui vont avoir par moment, des actions qui peuvent gêner les activités humaines. Voilà. Donc le terme de nuisible ne peut pas être appliqué en tout temps et en tout lieu. Il est vraiment à remettre en cause.
Alors, un exemple, les taupes. Voici ce qu'on pouvait entendre au journal de 13h de France Inter le 27 février 1967.
Est-ce que c'est très difficile d'attraper les taupes ?
Il est relativement facile, pour peu qu'on ait un petit peu de patience et d'habileté, car les taupes ont des habitudes. Elles passent régulièrement dans ce qu'on appelle des boyaux, d'un bout de l'année à l'autre. Et si on découvre ces boyaux, ce qui est facile avec un pique-feu, on peut piéger dans ces endroits-là et être sûr d'en attraper dans les mêmes passages sans déplacer les pièges de 15 à 20 et même plus, ce que d'ailleurs mes élèves vous confirmeront.
Donc les taupes ont un rayon d'action extrêmement vaste.
C'est ça, les taupes ont un rayon d'action très important, même à des endroits où vous croirez ne pas avoir de taupes parce qu'elles n'ont pas fait de petits monticules que l'on appelle des taupées, il y a quand même un boyau voisin où elles circulent et il n'est pas dit qu'un jour ou l'autre elles ne feraient pas des dégâts dans le champ en question.
Et voilà, la chasse aux taupes en 1967, mais cette activité perdure aujourd'hui.
Oui, alors pas de façon aussi nette que ce qui a pu être indiqué ici, sous forme de chasse aux taupes. Mais ici, l'extrait évoque les dégâts qui sont réalisés par les taupes, notamment dans les potagers. Maintenant, la destruction des taupes se fait surtout pour éviter les monticules que l'on estime disgracieux sur les gazons, dans les pelouses. Vous voyez, on a une évolution là aussi des choses. Il se trouve que la taupe est une espèce extrêmement intéressante au niveau écologique. Elle permet d'aérer les sols, elle va ameublir le sous-sol et elle joue un rôle comme ça qui est très intéressant. Elle mange aussi un certain nombre de vers ou d'insectes qui peuvent être eux-mêmes considérés comme étant nuisibles. C'est là toute la complexité de ces considérations.
Et puis elle a une peau extrêmement douce.
Oui, une peau très douce et un pelage aussi qui est intéressant. Et pendant très longtemps, on a piégé les taupes pour leur fourrure et on faisait des manteaux ou des manchons en poil de taupe.
Quand on parle des nuisibles, Rémi Luglia, est-ce que c'est pas en rapport avec notre façon de penser le monde, avec les rapports entre les hommes et le reste du vivant ?
Oui, tout à fait. Nuisible, en fait, ça nous permet à nous, chercheurs, et notamment historiens, d'accéder aux relations que les humains entretiennent avec le reste du vivant. C'est un angle d'approche qui nous permet de mieux voir la façon dont les choses sont pensées. Et les rapports à la nature sont effectivement très variables, notamment depuis 200 ans.
Parce que je le disais dans l'introduction, on partage tous le même territoire, en fait.
Oui, la grande question, c'est celle du vivre ensemble. Bon, on l'applique aux humains, mais c'est valable aussi pour les autres espèces. Et en fait, la grande question que pose la question des nuisibles, c'est de savoir si l'ensemble de l'espace sur notre planète doit être consacré aux humains, ou si on accepte de laisser une place à d'autres êtres vivants. Et c'est une question qui a traversé, qui traverse les siècles.
Michel et Jean-François Terrasse, je m'excuse de vous déranger, je vois que vous êtes en train de préparer votre valise. Où partez-vous ?
Nous partons dans les Pyrénées chaque année à peu près à cette saison pour vérifier les différentes aires de rapaces, colonies de vautours fauves que nous avons découvertes et pour voir dans quel état elles se trouvent et si tout se passe bien.
Jean-François Terrasse, vous ne croyez pas aux animaux nuisibles ?
Non, en effet, le mot de nuisible est un mot qui ne veut absolument rien dire. On peut parler d'animaux en surnombre, mais on ne peut pas parler d'animaux nuisibles.
C'est tout à fait mon avis, mais on ne peut surtout pas dire que les rapaces sont des animaux en surnombre, car ce sont des animaux qui, au lieu d'être nuisibles, jouent un rôle bienfaisant dans la nature, de limitateur d'espèces prolifiques.
Jean-François Terrasse, un grand spécialiste des oiseaux, dans une émission du 15 avril 1966. Une petite réaction, Rémi Luglia.
Oui, Michel et Jean-François Terrasse. Alors Michel vient de nous quitter récemment, mais Michel et Jean-François Terrasse sont de grands ornithologues, amoureux des rapaces, très très bons connaisseurs, hein, vraiment des spécialistes de renommée internationale. Et ils s'expriment en 1966 avec des mots qu'on peut tout à fait reprendre de nos jours, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, les rapaces, notamment parce que ce sont des prédateurs, ne peuvent être considérés comme étant des nuisibles. On n'a jamais vu dans l'histoire du vivant un prédateur éradiquer complètement son espèce proie, son gibier. Sinon, il disparaîtrait aussitôt. Et donc, les rapaces participent à l'équilibre de la nature. Et 10 ans après cet entretien-là que vous rapportez, en 1976, il y a une grande loi sur la protection de la nature en France qui a enfin indiqué que les rapaces diurnes, notamment, devaient être protégés. Jusqu'à présent, ils étaient détruits.
Et dans un instant, on parlera de la peste. Vous êtes d'accord ?
Ah oui, tout à fait.
Perdu dans le cœur des foules, rien à faire là. Vos sirènes, vos sons me saoulent, je n'ai rien à faire là. Oh chérie, dis-moi quand tu viens. Oh chérie, dis-moi quand tu viens. Retour à la terre, retour en arrière. Que tout est chaleur humaine, que tout est chaleur humaine. Porte fruit, porte fruit. Noyé dans l'enfer des chiffres, je ne sais qu'en faire. On dirait que ma tête affiche s'en va boire un verre. Oh maman, dis-moi quand tu viens. Oh maman, dis-moi quand tu viens. Retour à la terre, retour en arrière. Que toute cette chaleur humaine, que toute cette chaleur humaine. Porte fruit, porte fruit. Oh porte fruit.
On écoutait Nicolas Michaud, Chaleur humaine.
Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter.
Le matin du 16 avril, le docteur Bernard Rieux sortit de son cabinet et buta sur un rat mort au milieu du palier. Sur le moment, il écarta la bête sans y prendre garde et descendit l'escalier. Mais arrivé dans la rue, la pensée lui vint que ce rat n'était pas à sa place et il retourna sur ses pas pour avertir le concierge. Le soir même, Bernard Rieux, debout dans le couloir de l'immeuble, cherchait ses clés avant de monter chez lui lorsqu'il vit surgir, du fond obscur du corridor, un gros rat à la démarche incertaine et au pelage mouillé. La bête s'arrêta, sembla chercher un équilibre, prit sa course vers le docteur, s'arrêta encore, tourna sur elle-même avec un petit cri et tomba enfin en rejetant du sang par les babines entrouvertes.
Extrait de La Peste d'Albert Camus, publié en 1947. Rémi Luglia, vous êtes historien, spécialiste de la nature.
Non, c'est vrai que, en fait, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que, qu'on le veuille ou non, on vit avec les autres êtres vivants. Et on entretient des relations qui peuvent être complexes avec elles. Certains êtres vont nous être tout à fait bénéfiques, on le voit de façon évidente, y compris d'ailleurs avec des bienfaits psychologiques, on peut penser aux chats et aux chiens que l'on a avec nous, qui vivent avec nous. D'autres espèces nous accompagnent sans qu'on s'en rende compte, on peut penser à toute notre microbiote par exemple, on héberge beaucoup d'espèces animales microscopiques en nous-mêmes, et heureusement, des milliers, sinon on ne vivrait pas. Il faut être conscient de cela. Et puis, de temps en temps, il y a des espèces avec qui on entretient une relation de proximité et qui peuvent nous poser problème. Je dirais même que ces problèmes sont réciproques. Parce qu'à travers l'exemple de la peste, on se focalise sur des espèces qui nous transmettent des maladies. L'exemple de la peste est celui qui était le plus effrayant au fil du temps. D'ailleurs, ce n'est pas toutes les espèces de rats qui transmettent la peste. En fait, qui portent la puce qui elle-même va piquer l'homme et transmettre la peste. Vous voyez qu'il y a tout un assemblage d'espèces comme ça qui se met en place. Mais nous, les humains, nous transmettons aussi des maladies à d'autres espèces sauvages. Simplement, on ne s'en rend pas compte ou on le voit pas. Il y a des chauves-souris, exemples. Par exemple, des chauves-souris qui ont des maladies que les humains leur ont transmises et ces chauves-souris, elles sont en train de disparaître. Voilà, donc on a bien ce schéma réciproque. Il reste que la peste, ça a été la grande maladie de l'Europe au Moyen et à l'époque moderne, qui faisait peur, qui effrayait, parce qu'on ne comprenait pas bien comment elle se transmettait.
Si il n'y avait pas eu la peste, est-ce qu'on aimerait mieux les rats, ces petites bêtes qui sont quand même réputées assez intelligentes ?
Les rats sont très intelligents, comme beaucoup d'espèces. Je ne suis pas certain qu'on les apprécie, en tout cas dans le monde occidental, puisqu'on a quand même une sorte de grande phobie culturelle autour des rongeurs. Il n'y a qu'à voir les cris que poussent un certain nombre de personnes, hommes comme femmes d'ailleurs, quand ils voient une souris chez eux. Or, on date la sédentarisation des humains dans le Moyen-Orient par l'apparition en archéozoologie de squelettes ou de restes de souris.
Petits rongeurs.
Petits rongeurs. Quand l'homme s'est mis à accumuler les céréales pour rester, pour vivre sur place, eh ben les rongeurs s'y sont adaptés. Donc finalement, on crée nous-mêmes les conditions de la nuisance d'un nombre d'espèces.
Les rats peuvent provoquer des maladies contagieuses, notamment la peste, affection devenue très rare en Europe, et la spirochétose ictéro-hémorragique, dont les journaux signalent de temps à autre des foyers. Il faut donc détruire ces animaux, c'est le but de l'actuelle campagne de dératisation.
Et que faut-il faire pour dératiser ?
Eh bien, la première chose à faire est de priver les rats de nourriture, car ils meurent s'ils restent sans manger pendant plus de 48 heures. En période de disette, les femelles abandonnent leurs petits et les rats s'entre-dévorent. Il y a donc dératisation spontanée.
Mais que doit-on faire lorsque, même les précautions prises, on constate des rats dans une cave ?
Il faut d'abord établir par où ils sont venus. Tantôt c'est une plaque métallique qui manque dans un soupirail, tantôt c'est une grille sur un siphon, tantôt on a tout simplement oublié de replacer un tampon d'égout sur la canalisation. Tantôt c'est une canalisation d'égout qui est détériorée. La première chose est donc de faire ces réparations.
Oh, c'est terrible, Rémi Luglia. Campagne annuelle de dératisation à Paris, diffusée le 14 avril 1957. Ça continue.
Oui, et puis ce qui était évoqué personne dont on a diffusé un extrait est tout à fait exact. Hein. La première façon d'éviter les pullulations de rongeurs, c'est de réduire leur source de nourriture. Voilà. Et en fait, ces rongeurs pullulent en ville parce qu'ils sont parfaitement adaptés à l'humain. Et ils vont tirer profit de tous les aliments qu'on leur laisse, comme les pigeons aussi. Mais,
et notamment voilà. Les poubelles.
Et notamment les poubelles.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé, puisque vous nous avez expliqué qu'au Moyen-Âge, nuisibles n'étaient pas appliqués aux animaux, qu'est-ce qui s'est passé au XIXe siècle ?
Au XIXe siècle, on a plusieurs phénomènes culturels qui se mettent en place, et notamment une sorte de laïcisation de la société, qui a beaucoup d'avantages, mais qui va un peu désenchanter les relations entre les humains et le reste du vivant. Et on va essayer de considérer les autres êtres vivants plutôt comme des machines, et de façon très rationnelle. On va mettre l'homme au centre du monde, et on va juger tous les autres êtres vivants en fonction du profit que l'homme peut en espérer.
Et du coup, on fait des catalogues.
On va, dresser des catalogues entre des espèces nuisibles et des espèces utiles. Évidemment, les espèces utiles, on va chercher à les conserver, à les exploiter. Les espèces nuisibles, on va chercher à les éradiquer, parce qu'on considère que ces espèces n'ont plus leur place dans un monde qui doit être façonné par les humains. On va chercher leur extinction, leur éradication. Et ça, c'est assez nouveau dans l'histoire de l'humanité.
Et puis, il y a des débats autour de certaines espèces. On peut prendre, par exemple, le pivert. Une commission a même été créée pour statuer sur le pivert.
On est au cœur du 19e siècle, effectivement. Et les savants ont pour mission sociale, hein, d'indiquer si telle ou telle espèce est utile ou nuisible. C'est les savants, rationnellement, qui doivent définir cela. Et ils vont notamment examiner le régime alimentaire de ces espèces. Le pivert, la question se pose dans les années 1854-1856
de savoir. On sent la précision de l'historien.
Voilà, oui, on aime bien les dates en tant qu'historien. Et donc, effectivement, au cœur du 19e siècle, la question se pose de savoir si le pivert est plus utile que nuisible. Les forestiers considèrent qu'il fait des trous dans les arbres. Oui. Donc, il est nuisible. Il dégrade la valeur des arbres. On ne peut plus les exploiter.
Oui, mais.
Mais les ornithologues disent qu'il faut remarquer, le pivert mange des insectes. Et ils mangent notamment les insectes xylophages. Et c'est pour cela qu'il fait des trous dans les arbres. C'est parce qu'il va s'attaquer aux arbres déjà malades avec des insectes xylophages qui mangent le bois et il va les détruire. Donc les ornithologues considèrent que le pic-vert est plus utile que nuisible. Il y a donc une sorte de commission qui se réunit et qui va statuer qu'effectivement, il faut protéger le pic-vert et d'ailleurs tous les pics.
Est-ce que il a été facile de trancher sur de nombreuses espèces ou bien est-ce qu'il y a des espèces qui étaient difficiles à déterminer ?
Et non, le choix est compliqué. Alors les scientifiques sont assez rapidement d'accord entre eux parce qu'ils utilisent des faits et des données assez objectives, qu'ils partagent, qu'ils discutent, qu'ils critiquent, mais sur lesquels ils arrivent assez rapidement à se mettre d'accord. Par contre, il faut bien comprendre que la notion de nuisible, hein, c'est une catégorisation humaine qui n'est pas que scientifique. Et qui n'est même pas du tout scientifique. Elle est avant tout politique, elle est avant tout sociale, elle est économique. Et ses intérêts économiques, eux, persistent. Et donc on voit, même si les scientifiques disent que telle ou telle espèce n'est pas nuisible, on voit quand même ces espèces continuer à être classées ainsi, et donc continuer à être détruites.
Donc on a, au XIXe siècle, établi des catalogues, des nuisibles et des utiles, mais c'est aussi à la fin du XIXe siècle qu'on a commencé à se dire qu'il fallait protéger les animaux.
Oui, c'est tout au long du XIXe siècle que petit à petit, l'idée qu'il faut protéger la nature va se développer. Et notamment, les savants naturalistes, à la fin du XIXe siècle, considèrent que la notion de nuisible n'a plus aucune pertinence scientifique. Pour eux, les choses sont très claires. Bon, il a fallu attendre la loi de 2016 pour qu'en France, cette notion de nuisible, le mot même de nuisible, sorte du code de l'environnement, du code rural.
Vous nous rappelez la date 2016.
Oui, plus de 100 ans. Plus de 100 ans que la décision, la réflexion scientifique est une réalité juridique. Donc là, on a un temps humain qui est assez étiré, assez différent. Donc à partir de ce moment-là, les savants considèrent que les catalogues utiles, nuisibles n'ont plus du tout d'intérêt. Et ils vont regarder les espèces, comment elles vivent pour elles-mêmes. Et ils vont s'intéresser à ces dynamiques-là. Ils vont s'apercevoir qu'il y a un certain nombre d'espèces qui ne vont pas bien, qui disparaissent, et ils vont recommander de les protéger.
Vous nous parliez du 19e. Je vous propose un extrait de l'histoire naturelle de Buffon de 1758. Là, on est au 18e siècle.
Le loup est l'un de ces animaux dont l'appétit pour la chair est le plus véhément.
Et quoiqu'avec ce goût il ait reçu de la nature les moyens de le satisfaire, qu'elle lui ait donné des armes, de la ruse, de l'agilité, de la force, tout ce qui est nécessaire en un mot pour trouver, attaquer, vaincre, saisir et dévorer sa proie, cependant, il meurt souvent de faim, parce que l'homme, lui, ayant déclaré la guerre, l'ayant même proscrit en mettant sa tête à prix, le force à fuir, à demeurer dans les bois, où il ne trouve que quelques animaux sauvages qui lui échappent par la vitesse de leur course et qu'il ne peut surprendre que par hasard ou par patience, en les attendant longtemps et souvent en vain, dans des endroits où ils doivent passer.
L'homme lui ayant déclaré la guerre, en fait, c'est ça. C'est la guerre entre les hommes et les autres.
Exactement. L'exemple du loup est assez clair là-dessus. L'exemple du renard aussi est assez édifiant. On parlait tout à l'heure des maladies. Au XXe siècle, le renard a été accusé, à juste titre, de transporter la rage. Et là, on est dans les années 1960-1970. Du coup, à partir de 1968 jusqu'en 1998, on va chercher à éradiquer les renards. On va en tuer plusieurs millions parce qu'ils transportent la rage du renard, ce qu'on appelle la rage vulpine. Et on s'est aperçu que ces campagnes d'éradication ne portaient pas vraiment leurs fruits et qu'au contraire, elles aboutissaient à disséminer la rage parce que les renards fuyaient les persécutions humaines.
Se cachaient.
Et puis faisaient des dizaines ou des centaines de kilomètres. Et donc, ils allaient, par la pression de la chasse des humains, allaient diffuser cette maladie. On s'est mis ensuite à vacciner les renards contre la rage. On a délaissé un petit peu l'éradication. On a développé des vaccins qu'on mettait dans des appâts, dans un morceau de viande. On mettait ce vaccin. Le renard mangeait la viande, croquait le vaccin. Et ne portait plus la rage. Bon. Et en une dizaine d'années, on a comme ça éradiqué la rage en France. Vous voyez que parfois, avec des solutions moins violentes, on obtient des résultats qui sont meilleurs.
Et dans un instant, on parlera des insectes.
You're nothing but a dirty, dirty old man. You do your thinking with a one-track mind. You keep preaching about heaven and glory. But on your face it shows a different story.
Up your rap, your story's getting dusty. Wash out your mouth, your lies are getting rusty. I can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weevers. Same old game, you never change. Always rapping about the same old thing.
Blowing minds is the thing of the past. You blew your chance, that's why it never lasts. You wanna be a graduated lover, but in reality you're just another brother.
You think you slick, but you can stand a little greasing. The things you do ain't never really pleasing. I can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weevers. Same old thing, you never change. Always laughing about the same old thing. You know you're funkier.
You put yourself up on a big stool. Nothing worse than an educated fool. Talking sex is your favorite conversation, but peace and love is a thing this generation.
What's in your head has really started showing. Your conversation is getting kind of boring. You're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weevers. Same old thing, you never change. Always laughing about the same old thing. You know you're funkier than a...
Vous avez reconnu forcément Ike et Tina Turner.
Les aventuriers sur France Inter.
Monsieur Robert Schmitt, vous êtes actuellement à Grenoble. Pourquoi achetez-vous des puces, tout d'abord ?
Pour les dresser, pour les faire travailler. Je suis dresseur de puces.
Et comment les dressez-vous ?
Très difficile à vous expliquer, mais la première chose à faire, c'est évidemment de les attacher. Pour cela, je me sers d'un fil en métal qui leur passe autour du cou et fermé derrière la tête comme un collier de chien ou de cheval.
Actuellement, vous entretenez combien de puces ?
J'ai toujours entre 150 et 200 puces.
Et comment faites-vous pour les conserver, les garder, si vous voulez, en quelque sorte? Elles vivent combien de temps, les puces?
En moyenne, elles vivent un an chez moi. Attachées, elles vivent un an, en moyenne en travaillant, mais je les soigne comme mes enfants.
J'adore cet extrait, Rémi Luglia, le dresseur de puces diffusé le 17 avril 1965 dans l'émission Rhône-Alpes Actualité. Les insectes pâtissent toujours d'une réputation vraiment détestable. On a parlé des mammifères tout à l'heure, mais les insectes vraiment ne sont pas toujours aimés.
Oui, comme les rongeurs. Les rongeurs et les insectes, c'est les deux groupes, on va dire, d'espèces qui sont parmi les plus détestés des humains, sans qu'on comprenne d'ailleurs bien pourquoi, quels sont les fondements de ces raisons, puisque certes, il y a des insectes qui peuvent être désagréables hein, pour les humains. On parlait des puces, on peut parler des moustiques, hein, c'est jamais agréable un moustique. Mais ils ont un rôle dans les écosystèmes, un rôle absolument central, et ce sont des ensembles d'espèces qui vont extrêmement mal actuellement et qui sont globalement en voie de disparition.
Rémi Luglia, il y a en France 50 000 espèces d'insectes. Près de 84% des espèces connues en France sont des insectes. La plupart sont mal aimées. Écoutez l'entomologiste Mathieu De Flores. Il est chargé de mission à l'Office pour les insectes et leur environnement.
Oui, effectivement, les insectes, c'est un groupe qui est absolument colossal. Donc vous l'avez dit, 50 000 espèces, rien qu'en France métropolitaine, c'est énorme. Et on les voit souvent que par l'intermédiaire de ceux qui nous embêtent un petit peu, qu'on appelle vulgairement des fois des nuisibles. J'aime pas trop ce terme-là, mais en fait, on côtoie ces entre guillemets nuisibles qui nous embêtent un petit peu, mais en fait, on pourrait pas vivre sans eux.
Chacun à sa place, c'est l'entomologiste que vous êtes qui le dit, même le moustique.
Oui, tout à fait, le moustique, il a une place qui est très importante. Alors effectivement, il nous embête l'été et à la saison où il va se reproduire parce que les femelles viennent faire un repas de sang pour pouvoir pondre des œufs qui donneront des larves à leur tour. Mais les moustiques, ils occupent une place qui est absolument fondamentale dans le fonctionnement de la nature. Par exemple, ben tout simplement, les moustiques, ils vont donner des maladies à des populations de grands mammifères. Alors les grands mammifères, quand c'est autre chose que l'être humain, on s'en accommode. Mais c'est vrai que quand c'est l'être humain, on a un peu mal, et c'est un peu logique, à accepter ça. Sauf que dans le fonctionnement de la nature, la transmission de ces maladies, elles vont réguler tout simplement les individus les plus faibles de certaines populations. Donc ça s'appelle aussi la sélection naturelle. Donc c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop quand il s'agit de l'être humain notamment. C'est vrai que y a des moustiques qui transmettent des maladies qui sont très dommageables à l'homme. On pense notamment au paludisme. Ça fait des dizaines de milliers de morts tous les ans. Mais c'est vrai que dans la nature, c'est une place qui est fondamentale. Il ne faut pas oublier aussi que les moustiques ils jouent le rôle de nourriture de beaucoup, 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 beaucoup d'autres animaux. Donc leurs larves qui se développent dans l'eau, eh bien leurs larves elles vont être mangées par d'autres insectes par exemple, par des batraciens, etc. Et puis les adultes, ils vont pouvoir, quand ils vont voler, ils vont se faire dévorer par des oiseaux. On aime bien les hirondelles, notamment les hirondelles, elles vont manger plein de moustiques.
Donc le moustique a vraiment sa place, mais racontez-moi la puce. La puce, vous la présentez comme une bestiole incroyable. Alors on connaît la puce parce qu'elle est réputée sauter très haut, mais ce n'est pas sa seule performance.
Oui, c'est vrai que les puces, c'est un insecte qui est un peu marrant, entre guillemets. C'est vrai que quand on se fait pas piquer, c'est mieux, mais quand on l'étudie un peu de près, c'est un insecte qui est déjà assez incroyable visuellement. Ça saute extrêmement haut, et puis en plus, c'est vrai qu'il y a des adaptations de leur cycle de vie qui sont assez rigolotes, notamment la larve qui va se développer dans des parquets. Eh bien, elle va être sensible aux vibrations. C'est-à-dire que si le parquet, les larves se développent dans un parquet et qu'il n'y a pas de vibrations, souvent elles ne vont pas terminer ce qu'on appelle la nymphose, c'est-à-dire elles ne vont pas se métamorphoser. Et des fois on a des appels de gens qui nous disent moi je suis arrivé dans ma maison de campagne et puis une ou deux journées après être arrivé, on a eu une invasion de puces. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est très probablement que en marchant dans la maison, en provoquant des vibrations sur le parquet, on a provoqué la fin de la nymphose des larves qui étaient là en dormance, qui attendaient patiemment. Et donc les larves ont terminé leur nymphose. On a des adultes qui sortent et puis qui vont donc pouvoir aller à ce moment-là s'attaquer à nos jambes.
Mais alors, qu'est-ce que vous conseillez quand on est face à des insectes un peu envahissants comme les puces ou les punaises de lit, voire les moustiques?
Alors quand on est face à des insectes type puces ou punaises de lit qui vivent avec l'homme depuis des milliers et des milliers d'années, quand on est dans un environnement fermé comme une maison, il va falloir effectivement limiter les populations de ces insectes qui peuvent vraiment être dommageables pour notre vie en bonne santé. Donc, il va falloir agir. Généralement, il y a plein de remèdes qui peuvent être efficaces, mais souvent, on est obligé de passer par des insecticides. C'est quelque chose qui est assez clair. Généralement, on conseille de plutôt passer par un professionnel pour éviter de faire n'importe quoi. Mais oui, on est bien obligé d'agir à ce moment-là. Simplement, quand on doit agir pour limiter une population, il faut toujours le faire en prenant en compte les dégâts qu'on pourrait avoir sur l'environnement et puis aussi sur notre santé. Donc, quand vous allez utiliser un insecticide, il ne faut pas oublier que potentiellement, il peut aussi y avoir un impact sur notre santé. Pour ce qui est des insectes qui sont à l'extérieur, qu'on appelle des nuisibles, mais qui vont causer des ravages, par exemple, dans certaines cultures, ou alors les moustiques qui vont aller proliférer dans certains endroits, pourquoi on a ces problèmes-là? Généralement, on a créé un déséquilibre quelque part en amont. Par exemple, dans les cultures, quand on est sur des très grandes cultures avec des rotations une fois de temps en temps et qu'il y a une bestiole qui vient s'implanter dessus, quand on a des milliers d'hectares, eh ben on comprend rapidement que potentiellement, si on a utilisé des insecticides, voilà, il n'y a pas de prédateurs qui peuvent réguler ces insectes qui nous posent des problèmes. Donc, c'est un souci. Pour ce qui est des moustiques, par exemple, on a le moustique tigre dont on entend parler pas mal, qui est en train de se propager partout en France. Le moustique tigre, en fait, il va profiter de toute petite cavité d'eau minuscule qu'il peut y avoir dans notre environnement, qu'on va créer dans notre environnement, avec des coupelles d'eau sous des pots de fleurs, des pneus qui traînent dans une décharge, etc. etc. Et donc, c'est les seuls dont les larves vont pouvoir se développer dans ces minuscules cavités d'eau. Et il ne va pas y avoir de régulateur d'autres insectes qui va pouvoir manger ces larves-là. Donc, on va avoir des problèmes. Donc, évidemment, il faut essayer d'agir déjà à l'échelle individuelle. Quand on a des moustiques tigres autour de soi, c'est d'essayer de faire la chasse à la moindre petite retenue d'eau, coupelle, n'importe quoi. Et puis après, il faut essayer de réfléchir un peu plus largement, mais toujours en essayant de ne pas avoir un impact trop négatif sur les autres populations, parce que bien souvent, quand on essaie de réguler une population d'un insecte comme celui-ci, on va avoir un impact sur toutes les autres populations d'insectes, même si elles ne nous embêtent pas, et voire même si, alors qu'elles peuvent être indispensables à notre vie, comme les pollinisateurs, les recycleurs. Et c'est pas parce qu'on a quelques bêtes qui nous embêtent qu'on peut déduire et conclure définitivement que les insectes sont des nuisibles et qui nous embêtent. Voilà, faut vraiment les regarder d'un autre œil et aller les observer dans votre jardin, dans le parc d'à côté, et vous verrez que vous découvrirez des choses incroyables et merveilleuses.
C'était l'entomologiste Mathieu de Florès, chargé de mission à l'Office pour les insectes et leur environnement. Mathieu de Florès, un amoureux des insectes, Rémi Luglia. En fait, en l'écoutant, on se rend compte qu'on ne connaît pas assez ce monde-là.
Oui, grâce à lui, on voit que ce monde des insectes, comme du reste du vivant, est absolument incroyable. On a énormément de choses à découvrir. C'est assez fabuleux et bon, je rejoins tout à fait ce qu'il dit. Hein. Et quand on est une espèce sauvage, pour moi c'est un élément absolument clé, quand on est une espèce sauvage, on ne naît pas nuisible, mais on le devient. On le devient parce que des humains vont nous classer dans cette catégorie, ça va leur permettre de nous détruire. Et on le devient parce que les humains vont créer des conditions qui font qu'on va les gêner, on va proliférer. Et effectivement, ce naturaliste le raconte très très bien avec le moustique tigre. Il est évident que c'est à proximité des humains qu'on va en trouver, il va trouver ses lieux de reproduction. C'est pas en pleine nature, puisqu'en pleine nature, il a des prédateurs. Les libellules, par exemple, les tritons, les batraciens, les amphibiens vont consommer ces moustiques. Quand vous avez une coupelle sur votre balcon avec un peu d'eau qui stagne, il n'y a pas de prédateur. Et donc le moustique tigre peut s'y reproduire et véhiculer notamment un ensemble de maladies. Il le fait aussi à cause du changement climatique. Et je crois que les humains ont une certaine responsabilité à ce titre-là.
Et il dit qu'il faut porter un autre regard. Il propose même de faire des safaris photos dans le jardin pour regarder les insectes de près. Et ça donne très très envie. Vous êtes historien, Rémi Luglia, et vous connaissez très très bien ce monde de la nature sauvage. Ça vient d'où ?
Écoutez, ça vient d'une double passion qui remonte à ma plus tendre enfance, la passion de la nature, donc l'observation notamment des oiseaux, des mammifères, et aussi des grillons, des criquets, des sauterelles. Donc là, quand j'avais 7 ans, 6 ans, jusqu'à 20, 25 ans, je suis beaucoup plongé dans la nature, à l'observation, à la découverte de ces espèces-là.
Mais vous auriez pu devenir biologiste ?
J'aurais pu devenir biologiste, mais j'avais une deuxième passion qui est celle de l'histoire. Donc, toujours aimé l'histoire et j'ai fait des études d'histoire à l'Université d'Avignon, puis à Sciences Po, à Paris et à la Sorbonne, avec à la clé l'agrégation d'histoire et ensuite un doctorat d'histoire contemporaine à Sciences Po Paris. Et lors de ce doctorat d'histoire contemporaine, j'ai choisi un sujet qui me permettait de marier ces deux passions, l'histoire contemporaine, évidemment, et aussi la protection de la nature, puisque j'ai fait ma thèse sur l'éveil de la protection de la nature en France, du milieu du 19e siècle au milieu du 20e siècle.
Et justement, dans un instant, on parlera de la nature aujourd'hui et comment sont vues, non pas les nuisibles, puisqu'on n'utilise pas ce mot, mais les espèces envahissantes. À tout de suite. Et Automatic City, Lament.
Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter.
Moi j'ai ma mère qui est au lit, on tue des cafards sur son mur, j'en ai qui sort de mon congélateur derrière le moteur, on en a plein la maison, du haut en bas, et puis ça vient du dehors, ça vient des carrières, des houlières de Gonnet. Alors c'est ça, c'est les décharges de béthune qui viennent tout amener ici. Alors, tout le coin ici, ils ont passé pour nous désinfecter les maisons, mais on en a encore. C'est désagréable, hein? Même dans mes beaux placards de ma cuisine, j'ai des cafards.
Invasion de cafards près de Bruay en Artois, diffusée au journal de France Inter le 16 octobre 1979. Rémi Luglien, on n'aime toujours pas. En 2023, les cafards, le renard, la belette, le blaireau, le sanglier, le cormoran, le ragondin, et j'en passe.
Et oui, on a besoin d'avoir des boucs émissaires et c'est tellement facile de mettre sur un animal toutes les difficultés que nos propres sociétés créent. Et puis après, il y a des habitudes qui se prennent, il y a des intérêts aussi. Le renard et le blaireau sont parmi les meilleurs exemples. Si on veut rester un instant sur le renard, c'est une espèce objectivement éminemment utile aux humains, aux agriculteurs, mais aussi aux médecins. Pourquoi aux agriculteurs? Parce que le renard va manger, on va dire 80% de son régime alimentaire, ça va être des campagnols, des mulots, des rongeurs. Bon, un renard qui mange des rongeurs, l'agriculteur est très content. Ça lui fait moins de nuisibles, je mets des guillemets évidemment, dans ses champs. Pourtant, on continue à détruire les renards. Allons comprendre. Le renard, en même temps, on s'est aperçu que d'un point de vue sanitaire, il avait un effet très important, notamment pour réguler la maladie de Lyme. Parce que quand il est présent sur un territoire, il fait la chasse évidemment aux rongeurs, il leur met une pression importante qui les empêche de se déplacer trop. Or, les rongeurs vont transporter des tiques qui, elles-mêmes, portent la maladie de Lyme. Donc, quand on a des rongeurs, des fouines, des belettes, ben, ça limite la propagation de cette maladie. Pourtant, malgré tout ça, le renard continue à être classé comme nuisible et on continue à en tuer à peu près 1 million en France chaque année.
Mais c'est pourtant une tellement jolie bête, c'est magnifique un renard.
Oui, c'est très beau, c'est très intelligent, ça s'adapte très fortement aux humains. La femelle renard adapte son taux de fécondité aux ressources alimentaires sur un territoire. Voilà, donc on a des espèces qui sont assez fascinantes, on ne comprend pas bien pourquoi on continue à les détruire en nombre.
Et puis il y a des animaux qui changent de statut. On a parlé des dauphins tout à l'heure qui étaient mal vus au 19e. Aujourd'hui, le dauphin, c'est un animal star, mais il y en a d'autres. On peut parler du flamant rose, on peut parler de nombreux animaux.
Oui, il y a de très nombreux animaux qui ont varié au fil de l'histoire, et tant mieux pour eux, parce que généralement, enfin en tout cas depuis à peu près 200 ans, les variations se font à leur bénéfice. Le dauphin a été quasiment en recherche d'éradication au début du XXe siècle, et il a fallu attendre les années 1950-1960 pour voir son image changer, mais du tout au tout, brutalement.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Et ce qui s'est passé, en fait, ce sont les médias, et notamment le film « Le monde du silence », qui a clairement fait basculer les regards sur un monde qui était souvent méconnu. Et puis une série télévisée, Flipper le Dauphin, qui a changé complètement les choses.
Les flamants roses.
Les flamants roses, on l'entend, d'abord c'était une espèce qui était chassée, notamment en Camargue, qui est passée pas loin de l'extinction. Ils étaient devenus très farouches, ils avaient du mal à se reproduire. Et puis les flamants sont devenus actuellement une image, presque une image touristique de la Camargue.
Et du coup, quel est le statut des flamants roses aujourd'hui ?
Alors c'est une espèce protégée, heureusement, mais c'est une espèce qu'on peut effaroucher. C'est-à-dire qu'en Camargue, on a mis en place des épouvantails, on a mis en place aussi des canons sans charge, mortels, mais simplement qui faisaient du bruit pour faire fuir ces flamants. Et maintenant, on utilise cela aussi contre les grues. Puisqu'avec le réchauffement climatique, les grues maintenant vont rester hivernées en Camargue. On parle de 10 000, 20 000 grues, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Et elles vont à leur tour aller s'alimenter dans les champs et dans les rizières et poser à leur tour des problèmes.
Rémi Luglial, il y a un sujet dont vous aimez beaucoup parler, c'est celui des espèces exotiques dites envahissantes.
C'est un sujet très complexe, les espèces exotiques envahissantes.
Très complexe.
Au XIXe siècle, les espèces exotiques étaient très bien vues. On a cherché à les acclimater en France.
C'est-à-dire des exemples.
C'est par exemple le yak. Le yak, on est allé le chercher en Himalaya et on en a ramené quelques dizaines d'individus dans les années 1850 en France. On les a fait se reproduire, exister, parce qu'on pensait que ça allait venir enrichir l'agriculture et l'élevage français. Donc ces espèces étaient très bien vues. Et puis, vers les années 1900, on s'est aperçu qu'elles pouvaient poser des problèmes. Exemple, le lapin en Australie, qui s'est mis à pulluler parce qu'il n'avait plus de prédateurs. On a cherché à introduire le renard en disant qu'il allait manger du lapin. Le renard a mangé autre chose que le lapin en Australie. Donc voilà, on a un peu joué aux apprentis sorciers. Donc ça a posé de graves difficultés et on s'est mis à arrêter ce qu'on appelle les introductions intentionnelles d'espèces. Par contre, les activités humaines, notamment commerciales, aboutissent à un immense déplacement d'espèces tout autour de la planète et qui viennent nous poser problème. On peut penser aux frelons asiatiques, par exemple. On peut penser aux ragondins, également, qui avaient été ramenés en Europe pour la fourrure et puis qui a été libéré dans le milieu naturel. Et maintenant, il s'y reproduit et il vit très bien.
Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, en 2023, face à ces espèces qui ne sont pas forcément désirées ?
Eh bien, écoutez, on est un peu démunis. Parce qu'il est très difficile d'extraire une espèce du milieu naturel totalement quand on l'y a introduite. Rappelons que c'est quand même les humains qui sont responsables de ces introductions. Et on mène des campagnes qui coûtent des dizaines de millions d'euros chaque année, en France et en Europe, pour essayer de limiter la prolifération d'un certain nombre de ces espèces exotiques, pour essayer de les éradiquer, mais avec des incohérences qui sont assez dramatiques. L'association donc je préside, la SNPN, gère une réserve en Camargue.
SNPN ?
Société Nationale de Protection de la Nature. Voilà. C'est la plus ancienne association de protection de France et du monde. On a été fondée en 1854. On a créé la réserve de Camargue en 1927. On la gère depuis. Et il se trouve qu'il y a quelques années, on a vu une très belle liane, très esthétique, d'Amérique du Sud, arriver dans cette réserve naturelle. Et donc, l'État nous a donné de l'argent pour qu'on l'arrache, ce qu'on a pu faire, pour éviter qu'elle se répandent. Sauf qu'on s'est aperçu que dans les jardineries d'Arles ou de Martigues, on continuait à vendre cette espèce de liane. Donc vous voyez, l'État donne de l'argent pour qu'on arrache une espèce qui est perçue comme étant problématique, mais on continue à la vendre librement dans le commerce pour que les gens l'installent dans leur jardin. Bon, on a des incohérences là qui sont vraiment dramatiques.
Le sujet est vraiment très complexe. Il y a un animal dont on n'a pas parlé et pourtant il est très présent sur notre territoire et parfois on pense qu'il est trop présent, c'est le sanglier.
Le sanglier, c'est une espèce très compliquée dans le sens qu'elle, elle est soumise à un certain nombre d'instrumentalisations humaines qui l'ont transformée. Et là aussi, on a des discours qui sont parfois doubles. Hein. On nous dit qu'il faut réguler le sanglier, mais quand on le chasse, on s'empresse de ne pas tuer les femelles.
Oui. Voilà. Et même de les nourrir.
Et on les nourrit, notamment l'hiver. On a un taux de survie chez les jeunes sangliers qui frisent les 80-90%, ce qui, normalement, dans le milieu naturel, n'est pas du tout le cas. Donc on construit, en quelque sorte, une prolifération. Et après, on nous dit qu'il faut les chasser, les détruire. Donc on a vraiment une espèce, là, qui montre bien toutes les incohérences des politiques et des postures humaines.
Vous parlez même du double jeu de certains propriétaires qui louent le droit de chasser et qui déclarent des dégâts pour avoir des indemnisations.
Oui, tout à fait. Donc, il y a quelques humains qui ne jouent pas le jeu sur le sanglier, qui devient maintenant un vrai problème, hein, y compris pour la nature. Mais tant qu'on n'aura pas régulé les comportements humains, on ne parviendra pas à solutionner ces difficultés.
Mais Rémi Luglia, est-ce que les mentalités sont en train de changer quand même ?
Moi, j'ai la conviction que oui. Bien sûr, il y a toujours des sujets, on parlait du renard, hein, où on a du mal à faire valoir la raison scientifique par rapport à d'autres considérations. Mais globalement, on a de plus en plus d'espèces qui deviennent protégées. Et ça, c'est une bonne chose. On prend de plus en plus en compte les données scientifiques, notamment pour classer ces espèces. Alors, on dit plus nuisibles maintenant, depuis 2016.
Oh, mais j'ai compris que c'était un mot banni.
Voilà, on dit espèces susceptibles d'occasionner des dommages. Alors certains disent que c'est juste un changement de vocabulaire. Il y a un élément important quand même, c'est qu'il faut prouver qu'il y a un risque de dommage. Il faut le prouver scientifiquement, ce qui n'est pas simple. Donc on a quand même une progression de ce point de vue-là. Et puis le regard que les humains portent sur les animaux est plus éthique. On prend aussi en compte leur état d'être sensible. Et ça, ça fait quand même évoluer les choses de façon importante.
Rémi Luglia, pour terminer, j'aimerais vous faire écouter un extrait du Maître des corbeaux de Christopher Skeff et c'est paru en 2019.
Comme maître des corbeaux, j'ai eu un accès privilégié à la vie et au comportement de l'une des créatures non humaines les plus extraordinaires au monde. L'une des choses que j'ai apprises sur les corbeaux est qu'ils sont étonnamment semblables à nous. Ils sont versatiles, omnivores, capables de grande cruauté et de grande bonté. Et dans l'ensemble, ils réussissent à s'entendre entre eux. En étudiant les corbeaux, j'ai beaucoup découvert sur la nature humaine. J'ai appris à écouter, à observer et à rester immobile. Les corbeaux ont été mes professeurs et j'ai été leur élève.
Les corbeaux qui longtemps ont été mal aimés. En conclusion, on peut dire que quand on connaît, finalement, on regarde les choses avec un œil différent.
Oui, tout à fait. Donc ici, on parlait du grand corbeau. Il en existe différentes espèces. Hein. On appelle corbeau tout ce qui est noir, à vrai dire. Mais le grand corbeau est reconnu comme étant une des espèces parmi les plus intelligentes au monde, hein, selon les humains en tout cas. Effectivement, connaître, c'est quand même prendre en compte l'autre. Effectivement, moi je préfère parler d'autres vivants, autres qu'humains, parce que...
Moi j'aime bien dire les autres animaux.
Oui,
les humains.
Tout à fait.
Nous sommes des animaux.
Tout à fait, on est des animaux. Et en fait, quand on s'intéresse véritablement aux autres pour ce qu'ils sont eux-mêmes, et pas simplement par rapport à soi-même, eh bien, on s'aperçoit qu'on a un monde absolument fabuleux qui s'ouvre devant nous et que toutes ces espèces sont infiniment intéressantes. La question, c'est d'arriver à vivre avec et à leur faire une place à nos côtés. En fait, il faut que l'humain arrête de prendre toute la place. Je crois que c'est ça la leçon à retenir.
Merci beaucoup, Rémi Luglia.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à l'historien Rémi Luglia, spécialiste de la nature. Alors, un conseil de lecture ?
Oui, moi je vous conseille de lire un formidable ouvrage de Nicolas Baron, « Vivre en renard ». Il vous plongera dans le quotidien de cette espèce et vous montrera en quoi elle est absolument fascinante.
Marilène Patoumatis, préhistorienne et la conseillère scientifique des Saventuriers. Cette émission est réalisée par Jérôme Boulet, attaché de production Caroline Prota. La programmation musicale est signée Djoubaka. La semaine prochaine, nous parlerons de la viande. Mais d'ici là, vous pouvez nous retrouver en podcast sur l'appli Radio France.